Vous êtes sur RTL.
Nous donnerons la parole sur RTL.
La santé mentale des Français s'est significativement dégradée entre fin septembre et début novembre. Je remercie d'ailleurs Christelle Robière pour le flash. C'était les mots hier du ministre de la Santé, Olivier Véran. Et nous vous posons une question toute simple. Est-ce que vous avez le moral? Et Céline, à juste titre, nous a dit il faut garder le moral. Céline.
Oui, tout à fait. Il faut garder le moral. La situation est délicate, ça c'est sûr. On l'a déjà plus ou moins expérimenté lors de la première vague. On est un peu moins dans l'inconnu parce qu'on connaît les gestes à faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est vrai que je pense là où les Français sont plus perdus parce que par rapport au premier confinement ou à la première vague, les choses ne sont pas exactement les mêmes. On a le droit de faire certaines choses, comme par exemple aller au travail, mais par contre, on n'a pas le droit ou on n'a pas accès à d'autres choses. Moi, ce qui me choque, par exemple, vous pouvez être à plusieurs dans un bus, dans un métro, dans un tram. Par contre, on va vous dire le coiffeur, le théâtre, le cinéma, non. Alors que si on prend par exemple l'exemple de ces ou tout autre commerce, surtout je pense aux petits commerces qui ont énormément investi, alors par exemple dans des plexiglas, dans des solutions hydroalcooliques, pour vraiment mettre en place tout ce qui était nécessaire, ces personnes-là maintenant on ne les laisse plus travailler. Alors
a priori ça va rouvrir le 27 quand même, on est aujourd'hui le 20 novembre, c'est bien cela?
Oui, mais ça on n'en est pas
sûr. A priori la tendance est quand même de rouvrir pour le... Maintenant que le Black Friday est décalé au 4 décembre. On va peut-être décaler Noël aussi, on peut peut-être mettre Noël le 8 janvier. Mais
voilà,
a priori, il n'y a plus d'obstacles à l'ouverture samedi prochain, puisque c'est un week-end. C'était
oui,
ça qui intéressait les petits commerçants.
Ça, il va falloir attendre les annonces officielles, les annonces gouvernementales. Effectivement, c'est ce dont on s'approche, hein, on est d'accord. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'en attendant, toute cette période qu'on a déjà passée, c'est un manque à gagner énorme
bien
pour
sûr.
L'économie. Et il va y avoir énormément de commerce, de bouche.
Je suis d'accord, Céline, mais le moral, parce que c'est ce qui m'intéresse. D'abord, vous êtes infirmière libérale. Comment garder le moral? Est-ce que vous avez des trucs par exemple, qui font que vous gardez le moral?
Oui, quand on voit un patient dont l'état s'améliore, ça c'est des choses qui effectivement nous donnent le moral. Comme vous le dites, qu'il va quand même avoir un futur. Hein. Alors est-ce que le futur sera le même qu'on a connu? On n'en sait rien. Mais quelque part, on se dit, allez, il faut tenir le choc, il faut avoir le moral, parce que quand vous allez soigner des gens, pour certaines personnes, vous êtes la seule présence, hein, parfois dans la journée, surtout des personnes isolées. Alors en plus, si ce sont des personnes isolées et qui ont la Covid, donc vous ne pouvez pas aller chez les gens en tirant la figure. Hein. Il faut y aller en ayant le sourire. Même si on peut avoir des journées qui sont longues, les gens vous attendent et vous devez de garder le moral. Hein. Après, c'est sûr qu'il y a des fois où on se dit, oh là là, en ce moment, on a vraiment l'impression de se lever, d'aller travailler, de rentrer. Mais ça, c'est le cas pour beaucoup de personnes en France et dans le monde. Donc oui, il faut garder le moral. Ensuite, on a de la chance, on a un peu de soleil de temps en temps. Il faut se raccrocher à ces petites choses en se disant, voilà, j'ai de la chance, je ne suis pas malade, j'ai de la chance, j'ai un travail. Il faut garder le moral. Hein, sinon
et puis chacun ses trucs. Vous savez que moi, j'ai un truc, par exemple, quand je n'ai pas le moral. Vous voulez que je vous fasse écouter ce que j'écoute quand je n'ai pas le moral?
Avec plaisir.
Écoutez, Céline.
Oui, voilà. Moi, j'aime bien Abba aussi.
Abba. Vous mettez Abba. Alors, bon, je ne dis pas qu'il faut mettre Abba toujours et tout le temps. Mais vous mettez Dancing Queen et ça va mieux, l'espace de quelques secondes. Merci Céline, vous étiez le premier témoignage. Vous habitez Strasbourg, il n'y aura pas de marché de Noël en plus à Strasbourg,
non,
c'est terrible.
Non, il n'y aura pas de marché de Noël, non, mais on fêtera autrement. Hein. Il faut, je pense, pour pouvoir aller au-delà, il faut réinventer les choses. On fêtera Noël, c'est sûr, Noël ne changera pas.
Vous êtes combien, vous, à Noël, par exemple, Céline?
Comment?
Vous êtes combien à Noël? Chez vous.
Pour le moment, déjà nous sommes 5 parce que j'ai 3 enfants.
Ouais.
Et ça va être ça va être du réduit. Hein. Ça va être, je pense, la famille de mon mari dans un premier temps. Puis après, ce sera éventuellement ma famille. Mais ce sera en petit nombre, quitte à ce que ce soit en plusieurs fois, vous voyez.
En plusieurs jours. Sur plusieurs jours. Non, c'est pas mal, ça, Noël, sur
et
plusieurs
plus,
jours. C'est un peu ça
Noël,
déjà dans les familles, déjà.
généralement
il y aura une partie des soignés travailler donc
dans les familles, voilà. C'est ça, une année sur deux, on est le soir chez les beaux-parents, une année sur deux, on est chez ses parents à l'heure du déjeuner, le midi. Donc toutes les familles françaises font à peu près ou en tout cas souvent la même chose. Merci Céline, merci. Greg Caradoni, vous avez le moral ?
Écoutez, ça va. Ça
et
va,
quand
oui.
vous avez, quand vous voulez garder le moral, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous avez un truc ?
Alors, vous parlez d'une chanson, moi j'écoute Queen, on en parlait il y a quelques jours dans l'émission Don't ouais. Stop Me Now.
Aye. Vous pourriez écouter aussi l'Adagio d'Albinoni qu'on avait passé.
Puis on ne se reverrait pas le lendemain.
Ou la messe du pape Marcel qu'on a passé
en début de semaine.
De Gianluigi de Palestrina. La messe du pape Marcel. Je vous la recommande. La pub à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier qui a souvent le moral, pour ne pas dire toujours le moral. Vous êtes plutôt joyeux.
On essaie, tout du moins. Et vous, vous êtes joyeux ?
Écoutez, j'ai une propension, effectivement, à avoir le moral.
Allez, la question que nous vous posons, vous l'avez compris depuis le début de l'émission, avez-vous le moral ? Eh bien, pour Virginie, notre santé mentale s'est dégradée. Depuis longtemps, les gens sont agressifs, toujours à critiquer. Comment peut-on être de bonne humeur ? Demande Bernard avec toutes ces nouvelles. Marre de toute cette gestion, écrit Florence. Philippe ne supporte plus de faire le tour de son quartier, de se promener avec un masque. C'est dur de ne pas voir ses enfants, ses petits-enfants, lance aussi Béatrice. On ne peut pas se projeter, c'est ça qui est terrible. Et allez Jacques, à une demande dans l'émission, passez la chanson « Nuit de folie ».
Non mais ça c'est vrai que
on vit pas beaucoup de nuit de folie en ce moment.
Tu sais que les chansons, ça reflète une époque. Chansons des années 70, Stone et Chardin, des années 80, Claude François, Joe Dassin, c'est merveilleux. Et effectivement, c'est plus sombre peut-être aujourd'hui, mais c'est normal, c'est l'époque. Marie-Agnès, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'ai cru que c'était Chantal Latsou qui...
Non, je suis un peu enrouée parce que j'ai trop fumé hier.
Pourquoi vous avez trop fumé ? Parce que vous n'aviez pas le moral ?
Parce que j'avais pas le moral. C'est tout. J'avais décidé d'arrêter de fumer et depuis le confinement, je ne...
Vous avez repris ?
J'ai repris. Et de manière assez terrible.
Bon, c'est-à-dire que vous fumez combien de cigarettes par jour ?
Moi, je suis à un paquet et demi, là.
Ah oui, c'est beaucoup.
Oui ?
C'est beaucoup.
Oui, c'est beaucoup, mais j'ai commencé à fumer très très tard, à 30, plus de 30 ans.
C'est le mois sans tabac, en plus, novembre.
Oui, vous parlez. Alors, écoutez, je vais vous dire une chose. Moi, les recommandations là, de tous les savants, de tous les médecins et tout ça, j'en ai ras le bol. Il suffit que je vois Salomon, que j'appelle le croque-mort, je change de chaîne.
Le problème, c'est quand vous changez de chaîne, vous tombez encore sur lui.
Je regarde l'heure des pros parce que je vous suis toute la journée.
Vous êtes gentil. Hein.
Mais j'ai des hauts et des bas, mais j'en peux plus là, parce que les 4 mois, j'ai bien respecté, même jusqu'aux 100 km, j'ai passé comme certains de mes copains qui ont biaisé partant à minuit pour aller rejoindre leur maison de campagne. J'ai respecté à la lettre. Et là, si vous voulez, là, je vais vous dire une chose. Moi, ce qui m'a fichu le moral complètement à zéro, c'est que je viens d'avoir un quatrième petit enfant que je n'ai toujours pas vu. Et il est à Issy-les-Moulineaux.
Et vous habitez où ? Paris ?
Moi, j'habite en plein Paris.
Enfin, vous pouvez aller le voir. Faut peut-être pas exagérer, quand même.
Eh ben, oui, mais j'ai respecté. En plus,
vous avez le droit d'aller à Issy-les-Moulineaux quand vous habitez Paris.
Oui, j'habite en plein Paris.
Mais vous avez le droit de vous déplacer, peut-être pas à l'hôpital, mais... Pardon ?
Un kilomètre ?
Non, vous avez le droit à plus d'un kilomètre quand même pour.
J'ai cru comprendre que non.
Je ne sais pas dans quoi ça rentrerait d'ailleurs. Ça ne serait pas impérieux, c'est-à-dire visite d'un enfant qui vient de naître.
Écoutez, c'est ce que je vais essayer de faire.
Vous prenez les précautions. Vous n'êtes pas obligé de l'embrasser, de lui sauter dessus, ce petit, enfant, mais vous pouvez ne serait-ce que le voir.
Je vais vous dire une chose. J'ai embrassé mes enfants pour la dernière fois le 15 février, quand ils sont venus me dire, quand au moment où il est parti le confinement, où mon fils aîné est passé, m'a apporté des choses et après est parti.
Mais cet été, pourquoi vous les avez pas vus ?
Je les ai vus, mais on ne s'embrasse pas.
Ah oui, d'accord. Ah oui, mais c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé d'embrasser vos enfants. Ils sont grands maintenant.
Oui, mais quand même, moi j'aime bien embrasser mes enfants. Voilà.
Je suis d'accord. Oui, mais bon,
qu'ils soient grands ou pas.
Quel âge ont vos enfants ?
Là, il y en a un qui a eu ses 39 ans. Là, je ne suis pas allée au dîner. On n'a pas fait de dîner d'anniversaire.
Oui, mais ça, c'est pas très grave.
Oui, mais quand vous êtes tout seul, Vous comprenez, moi, il y a 10 ans que mon mari est mort. Il y aura 10 ans le 3 juillet que mon mari est mort. Quand vous, est-ce qu'on me dit, t'as de la chance, t'es dans un grand appartement. Mais quand vous êtes tout seul, vous parlez au mur.
C'est vrai.
Vous parlez au mur. Moi, pendant le confinement, j'ai pas déjeuné. Bon, j'ai fait l'imbécile. Hein.
Non, mais le dîner, faut pas faire de déjeuner ou de dîner.
J'ai mangé que du chocolat, moyennant quoi, je me retrouve avec un taux de sucre absolument phénoménal. Donc là, maintenant, je suis avec du truc anti-sucre.
Mais pourquoi vous le voyez pas seul? Faut pas faire de déjeuner et de dîner dans un endroit clos. Mais votre fils, par exemple, il peut venir, vous pouvez le voir, dans votre appartement.
Oui, mais comme il a peur, comme lui, il travaille et qu'il est confiné en salle de marché dans la banque, il a très peur de me l'apporter, de faire ceci, de faire cela.
Non, on peut voir sa mère quand même en respectant. Si en plus votre appartement est grand, quand il vient, ça me paraît pas très compliqué. Non,
En ce moment, j'ai la chance, entre guillemets, j'ai une de mes belles-filles qui a une société d'événementiel, donc vous voyez un peu dans la merde.
Oui.
Excusez-moi.
Bien sûr.
Dans le problème qu'elle a. Qui vient travailler parce qu'elle a fait son siège de société dans l'appartement. Toutes les deux, on se croise, on a un masque. La table de salle à manger qui est faite pour 8 personnes, elle est à un bout et moi, on est Louis XIV et Marie-Antoinette, on est l'une à chaque bout. Voilà, et c'est très gentil. Bon, elle, ça lui rend service parce qu'elle peut travailler au calme, parce qu'autrement, avec le bébé, c'est pas facile. Et voilà, c'est tout. Mais si vous voulez, il y a des hauts, il y a des bas. Et j'en ai marre. J'en ai marre parce que là, je suis sortie ce matin. Vous voyez les gens qui ont le masque sous le nez. Vous voyez qu'ils sont agglomérés devant les cafés pour boire leur café et tout ce que vous voulez. Vous voyez les gens qui respectent pas. Certains commerçants, je suis allée chercher mon tabac, ils respectent à la lettre. Il y a deux femmes qui sont rentrées, elles étaient sans masque.
J'entends bien. Alors, c'est vrai que cette notion de motif...
J'en ai marre de respecter et que les autres ne fassent pas, voilà.
Motif familial impérieux, c'est vrai qu'avec le motif impérial familieux... Non, oui. Motif oui, familial impérieux, je le dis mal. C'est vrai que si votre fils est dans le même kilomètre que vous, vous pouvez le voir. S'il n'est pas dans le même kilomètre, a priori, il y a discussion. Donc,
oui.
Je ne sais pas
s'il est... Il y a discussion, parce que moi, je suis dans le 9e et lui, ils sont ici, les Moulineaux.
Oui, donc alors, il y a plus d'un kilomètre.
Oui, vous voyez, j'ai pas vu mes sœurs depuis un an.
Vos sœurs, elles habitent où ?
Il y en a une qui arrive de Boulevard, on est très proches, il y en a une qui est de Boulevard de Courcelles et l'autre est à Orléans. Je devais être le week-end dernier à Orléans, parce qu'on devait...
Non, mais là, on n'a pas le droit de bouger.
Vous
n'avez pas le moral, Marie-Agnès. Et Noël, comment ça se présente ?
Noël, ça se présente, je vais vous dire ce que j'ai dit à votre collaborateur tout à l'heure. Moi, si je peux pas, c'est pas mon année. Donc, parce que ce que vous expliquez, il y a une année sur deux, voilà. Donc, moi, j'ai une partie de mes enfants, mon fils va en Allemagne parce que ma belle-fille est allemande, l'autre qui va en Mayenne et ma fille va dans le Périgord. Donc, normalement, je réunis mes copains qui sont dans le même cas que moi, qui ne sont pas avec leurs enfants. Cette année, je risque d'être toute seule. Je vous assure que j'avais un cachet et je dors toute la journée. Parce que pour moi, Noël, d'abord Noël, mais en plus, moi, je suis privée de messe, hein, parce que je suis catholique pratiquante, donc là, je suis privée de messe.
La messe sera rouverte, quand même.
Oui, attends, mais vous auriez vu les précautions qu'on a prises à la Trinité, hein, c'est vraiment un coup de franc-maçon, de machin. Hein, bon. Donc,
ça m'a échappé. Voilà. Quel est le rapport des francs-maçons? Pourquoi dites-vous ça?
Parce que les anticléricaux. Voilà, enfin bref, c'est mon délire, m'a dit un de mes fils. Mais là, on va rentrer dans la période de l'Avent. L'Avent, ça veut dire on monte à Noël, on se prépare. Là, on n'a pas de messe, on n'a rien, il n'y a même pas ce réconfort-là, si vous voulez. Donc là, moi, je me dis, si je suis toute seule pour Noël, pour moi, c'est une fête familiale, religieuse et autre.
Ce sera
la première fois de ma vie, j'ai 72 ans, ce sera la première fois de ma vie que je serai seule pour Noël.
Bah écoutez,
faut... Parce qu'en plus, là, on a tapé sur les vieux, on a tapé sur ceci.
Oui, non, mais vous pourrez vous déplacer.
Toutes les associations qui fonctionnent pas parce que c'est nous qui les faisions fonctionner. La Trinité, on distribuait la soupe aux gens qui étaient malades. Il y a personne, il y a pas de soupe, on peut pas le faire. Donc vous avez les gens qui sont dans la rue tout autour de l'église. Vous avez tout ça.
Marie-Agnès, on va marquer une pause. On va marquer une pause parce que Audrey Acoun est avec nous. Elle est psychothérapeute, elle est spécialiste de la psychologie positive. Elle vous écoutait, j'imagine, et peut-être va-t-elle pouvoir vous conseiller.
Quelqu'un de positif, mais là, je trouve que cette année, c'est l'année de trop, là.
Non, mais je suis d'accord avec vous, mais j'allais dire quelque chose. Comment vous dire ça? On a écouté tout à l'heure, à 12h30, Samuel Goldschmidt, qui rapportait ce qui se passe à Vesoul et l'échange entre Isabelle Fouillot et son ex-gendre Jonathan Daval. Alors, je ne veux pas dire qu'à l'aune de cela, on peut tous garder le moral. Mais comprenez, Marie-Agnès, que Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia Daval, elle aimerait peut-être bien simplement n'avoir qu'un problème à gérer de confinement. Et qu'il y a une hiérarchie dans les difficultés. Et c'est peut-être une manière, alors Madame Hakoun nous le dira peut-être, c'est peut-être une manière parfois de relativiser les choses, de voir ce qui se passe à côté. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Il était mieux que voilà tout, mais elle ne le savait pas.
Pascal Praud, la régie, il veut pas venir. Ça, c'est pas bien. Alors qu'il présente le journal ce soir, Monsieur Sini, lui, il vient nous dire bonjour, il vient nous annoncer le programme. Il est où, Stéphane Carpentier? Il a dit non, je veux pas venir. Il nous snob. Alors, vous l'écouterez ce soir, quand même, entre 18h et 20h. Et ça sera, on défait le monde avec l'ami Sini.
C'est ça, à
19h15. Et là, on passe des petites chansons qui peuvent nous donner le moral. Madame Hakoun, bonjour.
Mais bonjour.
Je crois que j'ai fait une erreur. Parce que j'ai dit à quelqu'un qui va pas très bien qu'il y avait pire et qu'à l'aune de ce qu'il y avait de pire, il pouvait aller mieux. Et paraît-il que c'est pas toujours une bonne manière de faire ça. Qu'en pensez-vous ?
Pascal, on dirait que vous avez lu dans mes pensées parce que j'allais démarrer par ça justement, de dire que je n'étais pas tout à fait d'accord avec vous.
Alors pourquoi par exemple quand je dis à Marie-Agnès...
Dans la douleur et dans les malheurs, parce qu'à un niveau individuel, quand on souffre... on est aux prises avec des émotions qui sont inconfortables, avec des douleurs, et de se dire que finalement on n'aurait pas le droit, on aurait le droit de moins souffrir si on se compare à des gens qui ont peut-être des souffrances plus grandes, c'est très culpabilisant et ça ne nous aide pas à aller mieux.
Donc j'ai fait une bêtise.
Oui, mais c'est pas grave.
Bah si, mais en fait j'ai fait une bêtise volontairement pour que vous puissiez intervenir, parce que beaucoup de gens font cette bêtise et j'ai voulu servir de cobaye.
Voilà, c'est parfait. Donc il n'y a aucune hiérarchie, il n'y a pas de hiérarchie de comparaison à faire quand on souffre. La chose à faire en revanche, c'est quand on expérimente une situation qui est douloureuse ou une souffrance, c'est de pouvoir se raccrocher dans sa vie à tout ce qui peut nous améliorer notre humeur, à tout ce qui peut nous faire du bien, et de ne pas partir dans la politique du mort pour mort, autant être mort, donc je m'enfonce dans ma déprime, je m'enfonce dans mon mal-être, mais au contraire, je vais essayer d'activer des leviers et de trouver des ressources, on a tous ces ressources-là, pour contrecarrer.
Alors d'accord, mais qu'est-ce que vous diriez à Marie-Agnès ? Et Marie-Agnès, elle vous écoute, puisque Marie-Agnès, je rappelle son cas, je vais donner son âge, elle a 72 ans, elle a le moral dans les chaussettes, à Noël, elle va peut-être être...
Il y a des hauts, il y a des bas.
Oui, mais elle va... Et elle se dit, le 24 décembre, pour la première fois de ma vie, je vais être toute seule peut-être, parce que ça va être compliqué avec mes enfants. Donc qu'est-ce qu'on peut dire, Audrey Hakoun, à Marie-Agnès ?
Mais moi, je comprends tellement la souffrance de Marie-Agnès. C'est ce qu'on observe en ce moment. Il faut savoir que là, dans les 15 derniers jours, dans les 3 dernières semaines, les taux de dépression, ou en tout cas de mal-être, sont passés de 10% à 21%. Ça n'est pas pour rien. Et c'est lié au fait qu'on soit contraint dans nos libertés individuelles, et qu'on soit séparé des gens qu'on aime, qu'on soit éloigné, qu'on n'ait plus ce contact humain avec les gens qu'on aime et qui nous font du bien. Donc c'est vrai que, et en plus on n'a pas de perspective de savoir quand est-ce que toute cette histoire va finir. On aborde les fêtes de Noël, et je comprends Marie-Agnès de se dire, bah déjà d'habitude c'est un an sur deux, donc déjà un an sur deux j'ai pas le plaisir d'avoir ma famille, mais du coup je m'organise pour être avec des amis, donc en lien social, avec des connexions, pour rigoler, pour prendre du bon temps. Et là elle est en train de se dire, et ben là cette année je vais même pas avoir ce plaisir là je vais me retrouver toute seule. C'est terrible de se dire qu'on va être isolée. Alors après, c'est-à-dire que comme on est logés à peu près tous quand même à la même enseigne, et qu'il y a de fortes chances qu'on soit séparés des gens qu'on aime à Noël, il va falloir s'organiser autrement, en utilisant peut-être les nouvelles technologies et en utilisant...
C'est gay.
Les visioconférences.
C'est gay. On va faire Noël en visioconférence. Remarque, je suis sûr qu'il y en a que ça va arranger. Des gens qui n'aiment pas leur famille. Alors Marie-Agnès, répondez.
Je vais faire parce que j'ai un groupe de copines depuis 40 ans qui s'appelle Les Toquets en Inde, parce que nous faisons par la cuisine une fois par mois tout ensemble et on rigole. Elles sont toutes parties, bien sûr, elles sont toutes à droite et à gauche, on se voit pas, on respecte. Donc on a décidé de se faire des apéros par WhatsApp. Je vous dis pas la galère. Hier, on aurait dû être 7. Il y en a 4 qui étaient dans un coin, 3 dans un, autre. Parce que toutes les nouvelles technologies, eh ben, là, ça marchait pas. La semaine dernière, il y en avait 5 et il en manquait 2. Donc, moi, les nouvelles technologies, ça, là, on a fait ça avec mes enfants au mois de le premier confinement. C'est absolument pas pareil. C'est complètement différent. J'ai déjà passé.
Vous avez raison. Ça n'est pas pareil. C'est imparfait. Mais c'est mieux que rien et c'est mieux que de rester isolé. Je vous entendais dire tout à l'heure. Moi, si c'est comme ça, je prends un cachet et je dors toute la journée. J'espère que vous arriverez à trouver des choses et des ressources qui, à ce moment-là, vous permettront de ne pas faire ça pour peut-être avoir des coups de fil déjà avec les gens qui vous sont chers. Envoyer des cartes, utiliser les technologies. Même si ça n'est pas parfait, mais au moins, voilà, c'est toujours la politique du mieux que rien.
Merci pour ces conseils, Audrey, et merci Marie-Agnès pour votre témoignage. Moi, j'ai compris un truc avec Audrey. Quand tu es psychothérapeute, la première chose que tu dis à quelqu'un, c'est « Vous avez raison ». Et après, t'argumentes. Mais la première chose que tu dis, mais vous avez raison. Alors après, tu vas dire le contraire, pourquoi pas, mais tu commences à dire, mais je vous comprends, mais complètement, vous avez parfaitement raison, mais en même temps, c'est mieux que rien, etc. Bon. Ah, vous êtes forte, Audrey. Bon, vous allez peut-être rester avec nous, Audrey, parce qu'on va faire une deuxième consultation en direct. Alors, Marie-Agnès, Marie-Agnès, donnez-nous de vos nouvelles, quand même, parce qu'on va essayer de suivre.
C'était pas un jour avec.
Bon, alors.
Normalement, je suis quelqu'un d'excessivement optimiste parce que je suis quelqu'un de très optimiste. Mais là, trop, c'est trop. Et en plus, moi, je vous dis.
J'ai compris.
C'est ce chiffre qui est dégueulasse tous les soirs, mais qui se taisent, qui ferment leur gueule. Excusez-moi.
Non, Marie-Agnès. Faut bien, je veux dire, c'est pas de la faute de. C'est les porteurs. Vous voulez tuer le porteur de mauvaises nouvelles. Il y peut rien, le pauvre diable.
Demain, mais qu'ils arrêtent. On en a pas besoin tous les soirs.
Bon.
Alors, si je peux me permettre, en revanche, par rapport à ça, pour faire baisser le niveau de stress, eux, ils font leur boulot et à nous aussi peut-être de prendre de la distance pour pas être trop exposés à des informations trop anxiogènes. Donc, on n'est pas obligé d'écouter ou de regarder non plus.
Oui, mais comme je l'ai dit, quand on change de chaîne, on tombe encore sur la même chose. Donc, c'est ça qui est parfois compliqué. Audrey, on lit. Vous avez un livre à nous conseiller, par exemple, Audrey ? Un livre là qui peut être intéressant dans cette période ?
Alors oui, j'ai un très bon livre qui s'appelle « L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine ».
Mais c'est une blague ou c'est un vrai titre ?
Pas du tout, c'est un philosophe qui fait des expériences de pensée morale où on se rend compte que finalement ça permet de relativiser les choses et que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il n'y a pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre, que du malheur d'un côté ou que du bonheur de l'autre. Ça fait réfléchir, c'est très drôle. Et c'est fort sympathique.
En tout cas, vous avez une voix qui est joyeuse, Audrey. Qui transmet quelque chose de positif. Un peu comme Greg Caradoni. Greg Caradoni qui était donc avec l'ami Carpentier, mais il n'a pas réussi à le...
C'est vrai, j'ai pas réussi à le retenir, mais j'espère qu'il viendra pour 18h.
Vaut mieux. Bon, vous nous faites une petite sélection musicale des chansons qui nous donnent le moral. Est-ce que vous auriez dans votre besace une petite chanson de Noël pour revenir tout à l'heure ?
Je peux même vous la mettre tout de suite.
Ah bon ?
Ça vous donne le sourire.
Ah, ça c'est bien ça. Et moi quand je vais pas bien, comment s'appelait ce film dont c'est la bande originale ?
Love Actually.
Et moi quand je vais pas bien, je regarde Love Actually, je regarde La Boum avec Sophie Marceau, je regarde La Bûche de Daniel Thompson, donc je suis en pleine régression. Je sais pas pourquoi, mais ça crée quelque chose chez moi. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.
Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 13h30, Laurent Tessier.
Avez-vous le moral en ce moment ? Question que nous vous posons depuis le début de l'émission. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a parlé hier soir des conséquences psychologiques de la crise du Covid-19.
Pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre nous, le confinement de la première vague a constitué un choc, ravivé par le nouveau confinement. Chacun se sentira concerné si je dis qu'il y a eu de la peur, parfois de la sidération, tantôt de l'espoir, tantôt du désespoir, de l'incompréhension, de l'agacement et parfois même de la colère.
5,8 sur 10, c'est la note du moral des Français selon notre baromètre BVA et le constat du ministre de la Santé est sans appel.
La santé mentale des Français s'est ainsi significativement dégradée entre fin septembre et début novembre, avec une augmentation conséquente des syndromes dépressifs observés pour tous les profils sociodémographiques.
Le gouvernement veut éviter, je cite, une troisième vague, celle de la santé mentale. Alors, en avez-vous marre de cette période? Quelles sont vos principales difficultés? Avec nous à 14h, Armelle Lebigot-Macco, présidente de l'École des grands-parents européens.
Alors, on va faire une deuxième consultation, peut-être en direct. On est avec Evelyne. Bonjour Evelyne.
Bonjour Monsieur Pro.
Et la question, c'est est-ce que vous avez le moral?
Alors, écoutez, moi je vais vous dire que nous, les retraités, je dirais qu'on n'est pas à plaindre. Parce que nous, à la fin du mois, on a quand même notre retraite qui tombe hein, sur notre compte bancaire. Par contre, moi je pense franchement à beaucoup, beaucoup de gens, donc les restaurateurs, les bars, tous ceux qui se trouvent comme Bridgestone, tous ces gens qui vont se retrouver au chômage, c'est terrible. Et hier soir, mon fils m'a téléphoné, il m'a dit « bon, ça y est maman, je viens de recevoir ma lettre de licenciement ». Bon, d'accord.
Quel âge
il a? Il a 34 ans.
Qu'est-ce qu'il fait?
Il était directeur commercial dans les machines à carte bleue. Mais comme il est commercial, il ne peut pas se balader dans Paris. Même avec le masque et tout, puisque les commerces en plus sont fermés.
Donc c'était un bon job qu'il avait.
Oui, il avait un très, 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 très bon. Oui, il avait, en plus, il avait un bon salaire, il avait des primes à chaque fois qu'il vendait des TPE. Oui, oui, il avait un bon salaire. Mais là, donc, du coup, il se retrouve au chômage. Bon, bien sûr, il va être payé à 70%, mais ils viennent d'acheter un pavillon. Ils ont 3 enfants. C'est ça qui m'inquiète. Et puis, j'ai ma deuxième fille. Bon, parce que j'ai 3 enfants. Ma deuxième fille, pareil, bon, elle travaille pour une très grosse société en Allemagne. Pareil, c'est un peu la crise aussi chez eux. Elle a pas de projet nouveau et tout. Et ils sont, tout le monde est sur la sellette dans la société. Hein. Elle sait pas du tout d'ici 2-3 mois ce qu'elle va devenir. Le problème,
et
c'est
donc
que
évidemment, vous vous inquiétez pour votre fils, pour vos petits enfants, pour la famille. Pour, et
oui,
ça. Alors, comment dire, l'inquiétude chez vous, ça prend quelle forme? C'est vous avez du mal à dormir?
Écoutez,
c'est une anxiété grande?
Alors en plus, moi j'avais des ateliers, c'est pour ça, quand j'entends Monsieur Véran, il parle sur un ton, comme si qu'il lisait un texte, mais attendez, la dépression c'est grave quand même.
Il n'y a pas tellement d'empathie
grave.
Pour le coup, j'écoutais tout
mais
à l'heure Audrey Hakoun, il y a
tout,
de l'empathie
parle,
immédiate, Monsieur
voilà.
Véran, c'est vrai qu'il n'y a pas une... Mais en même temps, c'est l'administration, il y a quelque
oui,
chose de froid, de glacial.
Complètement, il est glacial, voilà, c'est exactement le mot, il est glacial. Alors moi on m'a retiré mes ateliers, j'avais un atelier le vendredi après-midi, justement cet après-midi j'aurais dû y aller, de sculpture. On avait une grande salle, on était 5. Franchement, donc des tables bien espacées avec le masque et tout, qu'est-ce que ça peut lui faire qu'on fasse de la sculpture? On a fermé les boutiques de loisirs, les boutiques qui vendent des pinceaux, des crayons, on a fermé ces boutiques-là. On a une boutique qui s'appelle Colori et elle est fermée. Pourquoi?
Alors, Evelyne, je vous propose que Audrey Hakoun, qui est restée avec nous, intervienne sur la première partie de ce que vous avez dit. Comment remonter le moral à Evelyne, et c'est évidemment pas facile, qui voit son fils, qui s'inquiète pour son fils, et c'est tellement logique, qui est au chômage aujourd'hui, dans une période où ça va être difficile sans doute d'en retrouver, qui a 39 ans, qui a 3 enfants, qui a des charges comme tout à chacun. Quel est le message positif qu'on peut faire passer, Audrey Hakoun?
Alors, avant de délivrer un message positif, c'est déjà de reconnaître la légitimité de l'inquiétude. Parce que justement, aujourd'hui, on est quand même dans une société où, quand on a peur, quand on va pas bien, les autres ont vite fait dire, oui, non, mais c'est pas grave, enfin, ça va, machin, ça va aller, faut pas dramatiser. La situation actuelle pour beaucoup d'entre nous est très difficile et très inquiétante. Pourquoi? Parce que ça vient toucher à la première pierre, à la pierre fondatrice de notre vie, de notre stabilité. C'est-à-dire que quand on vient toucher à notre sécurité physique et matérielle, donc sur notre boulot, sur notre revenu, sur est-ce que je vais pouvoir payer les traites de ma maison, comment je vais donner à nourrir à mes enfants, ça crée tout de suite un déséquilibre chez nous et notre cerveau se sent complètement menacé. Et un cerveau qui est menacé, c'est un cerveau qui va s'inquiéter, qui va avoir peur et qui va plus fonctionner, qui va plus réussir à voir ce qui peut être bien dans la vie, parce que toute notre énergie est mobilisée à nous inquiéter pour le futur. Et donc indirectement, bah, les parents d'enfants qui se retrouvent dans cette situation-là s'inquiètent aussi forcément pour leurs enfants. Donc cette
nous inquiétude, sommes d'accord, mais après, ça c'est le diagnostic. Bien, après, mais après, qu'est-ce après, qu'on peut dire à Evelyne?
Ce qu'on peut faire, on ne peut pas changer la situation telle qu'elle est. Ce que des gens comme Evelyne qui expérimentent ça peuvent faire, c'est dans leur journée d'arriver déjà de se maintenir en mouvement. De se maintenir en mouvement parce que plus on a une activité physique, même à l'intérieur de chez soi, plus on fait baisser les taux de cortisol et d'adrénaline dans notre cerveau. Donc on fait baisser nos niveaux de stress et d'angoisse. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est de trouver des manières de préserver notre sommeil. Et là, je le dis pour Evelyne, mais c'est valable pour toutes les gens qui expérimentent en ce moment du stress et de l'angoisse, c'est de préserver notre sommeil. Qui est difficile, puisque quand on est par définition inquiet et anxieux, on a tendance à ruminer le soir, ça perturbe le sommeil. Pour favoriser le sommeil, il va falloir mettre en place des techniques qui marchent très bien et qui sont très faciles, de relaxation, d'activité calme, qui mettent le cerveau au repos pour favoriser ce sommeil.
Mais on prend rien, si on prend pas de cachet.
Non, parce que le problème de la France, c'est qu'on est un pays où on est les plus grands consommateurs du monde d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Mais ça n'est pas normal. On croit qu'en prenant un médicament, ça va régler tous les problèmes. Ça, pour certains, c'est justifié. Pour d'autres, et pour la majorité comme nous, qui vivons cette situation qui objectivement est difficile et anxiogène, ça n'est pas la solution. Il y a plein d'autres solutions qui sont naturelles, comme bouger, maintenir un cadre, faire de la relaxation, faire des activités qui nous font du bien, qui nous font plaisir, même si on peut plus aller retrouver les copines sur un lieu. Et puis moi, j'ai pas à juger de la pertinence des décisions.
J'ai compris, Audrey. Telle
que elle est, on peut faire de la sculpture chez soi, même si c'est pas avec les copines.
Je vous interromps, Audrey, parce que
je vous en prie.
Nous allons passer une page de publicité. Il y avait d'autres sujets aujourd'hui, par exemple la vente de sapins de Noël. Ça, c'était peut-être une manière de garder le moral, d'acheter un sapin, alors même s'il est un peu tôt, peut-être, parce que le 20, on est le 20 novembre, donc il faut qu'il tienne quand même votre sapin de Noël jusqu'au 24 décembre. Je rappelle, et je l'avais déjà dit l'année dernière, que chez mes parents, c'est le même sapin de Noël depuis 1975. C'est
un sapin. Une année de plus.
Je jure que c'est vrai. Mais bon, et que nous le verrons cette année, il va sortir de la cave. C'est un sapin de Noël, je jure que c'est vrai. Il aura fait un certain parcours, ce sapin de Noël en plastique.
Avec une couleur encore plus pâle.
Non, il est vert. Alors c'est vrai qu'il ne fait pas de d'aiguilles par terre, puisqu'il est, il a juste 50 ans, ce sapin de Noël.
Ce n'est pas un arbre mort non plus.
Non, ah ben c'est pour ça.
Ben voilà.
Voilà. Et on peut écouter mon beau sapin ou pas?
Bien sûr.
Mon beau
sapin.
Donc on peut l'acheter, hein, Norman ou Epicéa à partir de ce week-end. C'est un peu tôt peut-être, mais bon. Ça c'est Tino Rossi qui chante.
C'est Tino Rossi, oui.
Oui.
Et alors, j'ai une astuce si vous voulez pour garder le moral.
Oui.
Une fois que vous avez acheté votre sapin de Noël, vous pourrez aller dès ce week-end sur une application, sur l'application RTL. Et là, il y aura une playlist de Noël avec une web radio dédiée aux musiques de Noël.
Non.
Si. Et ça, je peux vous dire que ça va vous donner une bonne humeur, ça, incroyable.
Ah, ça, c'est la pêche.
Une pêche.
Tout à fait. Vous allez l'acheter quand Vous allez l'acheter quand, votre sapin de Noël?
J'imagine au milieu du mois de décembre.
Eh bien, écoutez, on va attendre alors. À tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Praud,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
On va remercier Audrey Acoun peut-être de ses conseils éclairants. Merci beaucoup, Madame Acoun.
Merci à vous.
Et puis nous allons peut-être prendre un homme qui a le moral, Benoît. Benoît a le moral, oui. Donc. Essayons de donner un peu de bonne humeur. Bonjour Benoît.
Bonjour à tous, bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Pourquoi vous avez le moral?
Écoutez, parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi, parce qu'il y a un de mes enfants qui vient d'être papa, donc je suis pour la première fois de ma vie grand-père.
Ah.
Et que c'est un moment, c'est fantastique, quoi, c'est tout. Donc rien que pour ça, j'ai le moral, ça m'a permis d'oublier tout le reste. ce confinement, ce Covid-19, le boulot, enfin tous les soucis qu'on peut avoir dans le quotidien.
Mais vous êtes un jeune grand-père, vous avez 51 ans?
Ouais, je suis un jeune grand-père, ouais. Mais c'est pas grave, c'est super.
Et quel est le nom? C'est un petit garçon ou une petite fille?
C'est une petite fille qui se prénomme Julia.
Eh bien écoutez, elle est née dans un monde particulier, en ce 20 novembre.
Facile, j'espère que... Ouais, et en plus le jour du Beaujolais nouveau et l'anniversaire de Joe Biden, donc bon, ça va être une date assez exceptionnelle, on verra bien.
Elle est déconfinée avant l'heure?
Ouais, exactement, elle était confinée avant l'heure, bien au chaud, dans le ventre de maman, bien protégée. Et ça y est, elle est sortie.
La maman va bien?
Nouvelle vie commence. La maman va très bien.
Le papa aussi? Le papa, c'est un papa moderne, il a assisté peut-être à l'accouchement?
Alors, c'était un accouchement par césarienne, donc il n'a pas pu, mais c'est lui qui profite de la petite là pendant 2 heures. Mmh. Et puis, mais tout le monde va très très bien. Et le plus difficile pour nous, égoïstement, c'est de ne pas pouvoir voir la petite pendant quelques temps, parce qu'on n'a pas accès à la maternité. Donc, mais c'est pas grave. On
prend la petite Julia fait 3 kg 2.
Alors, je ne sais pas encore combien elle pèse.
Généralement, les enfants font 3 kg 2. 3 kg 2, 3 kg 3, donc c'est général.
Eh ben écoutez, elle
écoutez, félicitations, on va vous applaudir, on va applaudir avec tout RTL. Est-ce qu'on a un cadeau pour Benoît? Est-ce qu'on a le droit à donner des cadeaux, Greg, j'imagine?
Bien sûr.
Hein, on va prendre votre nom, monsieur Benoît, parce que c'est exceptionnel quand même d'être grand-père pour la première fois. Et
ouais,
puis,
c'est génial, ouais.
Et alors, je vois que vous êtes dentiste aujourd'hui, vous travaillez?
Alors, ouais, j'ai travaillé ce matin à mon cabinet. Là, je pars aussi à CHU de Caen parce que je suis attaché aussi à CHU de Caen aussi. Donc, je vais y aller. Donc, je travaille, ouais, je travaille. On travaille à fond, nous, dentistes. On n'a pas arrêté, contrairement au premier confinement. Ça bosse, c'est pas facile, mais bon, le moral est bon quand même.
Bah, quand on travaille, nous, on a la chance de travailler. Vous avez raison, c'est ça qui est essentiel. Il y a des gens qui ne peuvent pas bosser. Je pense évidemment les intermittents du spectacle, les commerçants, etc. Donc, nous, on a la chance d'avoir un job et de pouvoir bosser. Donc, ça change tout. Parce que rester chez soi des journées entières avec la paye qui ne tombe pas, évidemment, c'est plus compliqué. Merci beaucoup, Benoît. Vraiment merci et félicitations à la famille. Christophe est là sur le moral. Alors, je vois que tout le monde appelle sur le moral. On aurait pu passer parler également de Jonathan Daval et j'aurais bien aimé qu'on réécoute d'ailleurs le formidable sujet de Samuel Goldschmidt dans l'ouverture du journal de 12h30 de Christelle Robière. Mais pour le moment, je ne sais pas si on a des appels sur Jonathan Daval, mais sur Christophe, on peut quand même parler de son moral. Bonjour Christophe, vous habitez Caen également?
Oui, bonjour Pascal. À côté de Caen, on va dire. Ouais.
Ben, vous n'avez pas l'air d'être en forme. Franchement, vous avez une petite voix. Bah oui, vous me dites bonjour Pascal. Vous n'avez pas l'air d'être...
Oui, surtout que ce n'est pas la première fois que je dialogue avec vous. C'est vrai que les fois précédentes, c'était beaucoup plus enjoué, mais aussi sur des sujets peut-être un petit peu plus réconfortants, on va dire. Bon, voilà. Donc, comme je disais à votre collaborateur, moi j'en ai un petit... mais carrément ras-le-bol de tout ce tapage médiatique qui est fait autour de ce Covid. Et puis surtout... j'ai l'impression, alors peut-être que c'est mon état qui fait que je prends ça un petit peu trop au sérieux, mais j'ai l'impression que de plus en plus on veut nous faire culpabiliser sur ce qui se passe dans les hôpitaux, sur ceci, sur cela. Mais je n'en peux plus de ce tapage médiatique, ça me tape sur le système et je pense, j'écoute quand même tous les jours votre émission et je vois bien que je suis pas le seul dans cet état-là, malheureusement. Et donc, je disais à votre collaboratrice tout à l'heure que moi, ce qui m'a sidéré, c'est que j'ai vu un reportage il y a à peu près 15 jours, je ne sais plus sur quelle chaîne, qui mettait en lumière le désarroi de bon nombre de commerçants, de petits commerçants, qui n'ayant pas touché un seul centime de dédommagement, étaient obligés de mettre la clé sous la porte. Bon, et il se trouve qu'il y a 2 jours, alors je ne sais pas si c'est une fake news ou quoi, ce sera vérifié, mais en tout cas si c'est avéré, c'est totalement dramatique. Il y aurait une jeune femme de 24 ans, coiffeuse de son état, qui aurait mis fin à ses jours par pendaison suite au fait qu'elle a mis la clé sous la porte. Et si c'est le cas, je comprends pas pourquoi personne n'en a parlé. dans les médias, et je trouve ça.
Écoutez, j'étais pas au courant, hein, vous avez raison.
Désastreux, parce que si c'est vraiment, je voudrais vérifier si c'est possible, si s'agit pas d'une xième fake news, mais si c'est le cas, ça voudrait dire que on est aux prémices de des fameux dommages collatéraux.
Bien sûr, mais il y a beaucoup de gens qui sont en dépression et sûrement certaines gens vont être tentés par cette solution extrême. Christophe, merci de votre témoignage. Je vous promets que nous allons vérifier ce que vous nous avez dit. Avant d'écouter quelques notes de publicité, peut-être que vous voulez donner un cadeau à Benoît
Bien sûr, ce jeune grand-père, on peut lui offrir... Ouais. Une tablette Facilotab. C'est une tablette qui est extrêmement simple d'utilisation. Mmh. Il va pouvoir se connecter. Bah, il va pouvoir aller se connecter pour retrouver son petit-fils, notamment via des réseaux. Il y a une multitude d'applications. Il va garder un œil sur le monde, pouvoir nous écouter. Et elle est extrêmement simple d'utilisation. C'est ça qu'il faut retenir.
C'est une tablette comment, vous avez dit ?
Facilotab.
Facilotab.
Ouais. Bon, bah, ça, Benoît. C'est pour Benoît.
Voilà, vous allez gagner quelque chose.
Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup infiniment.
La pub à tout de suite.
Je souhaite à tout le monde un bon moral.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Ça, c'est pour avoir bon moral. J'aime bien quand Cyprien Sini nous visite le vendredi parce qu'il vient nous annoncer le programme.
Ça, oh là ça là. Va mettre bonne humeur.
Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, et c'est un vrai problème parce que ça fait 3 semaines que l'Olympique de Marseille n'a pas joué.
Écoutez, franchement, lui, c'est une remède pour avoir bon moral. Il arrive, il produit sur moi un effet immédiat de rire, Cyprien Sini.
Ah, mais tu es crédible quand même.
Mais non, mais parce que vous êtes tellement joyeux, eh oui. Tellement vous avez tellement de bonnes ondes que vous ne voulez pas rester tout le temps avec moi dans la vie.
J'ai un travail quand même, hein. J'ai une famille.
Elle
tout
a de la chance, votre femme.
Oui, elle a beaucoup de chance. Elle le sait.
C'est une déclaration, là.
Mais pas du tout. Il a des bonnes ondes. Donc, faut profiter de son énergie. Ah, c'est quoi le programme ce soir ?
Tous les auditeurs pourront profiter des bonnes ondes ce soir. Du coup, 19h15, 20h, on défait le monde. Oui. On va parler complot, Black Friday. Et on va aussi vous offrir un cadeau. Mais un cadeau exceptionnel, puisqu'on vous offre une semaine au sport d'hiver pour deux. Dans un chalet magnifique, oui, sur les hauteurs de Megève.
On peut pas aller, donc.
Mais si d'ici
marrant.
L'hiver, on pourra y aller.
Bon,
enfin.
En revanche, les complotistes, on en a eu 2 ou 3, vous les avez repérés cette semaine. Hein, vous pouvez écouter les complotistes. Je veux pas dire ça fait ma joie, mais c'est vrai que le cerveau des complotistes est un mystère.
On va entrer dans le cerveau des complotistes avec un psychologue, notamment. Ouais. Ça va être très intéressant.
Ça, c'est formidable. On en a parfois sur l'antenne, hein, et moi, je suis un peu ennuyé parce que tout ce que tu dis ne passe pas.
Oui, mais alors, vous allez voir que, en fait, c'est inhérent au genre humain. D'être
bien
complotiste,
sûr,
en fait.
Bien sûr.
Voilà. Ça va être très intéressant.
Par exemple, il y a un sujet sur Netflix sur les platistes. Non. Mais
l'affaire est plate, les platistes.
Regardez ce sujet. C'est absolument mais fascinant.
C'est fou qu'on soit jamais tombé alors qu'elle est plate. Du mauvais côté, on est basculé.
Merci Cyprien Sini. Il est 13h54. Marie-Christine, notre question c'est: en avez-vous marre de cette période? Est-ce que vous avez le moral, Marie-Christine?
Ben oui, comme tout le monde, j'en ai marre. Oui. Qu'est-ce que vous croyez ?
Vous habitez dans le Morbihan, alors c'est bien déjà d'être dans le Morbihan. C'est mieux qu'être ailleurs.
Oui, j'ai quitté Paris où j'ai vécu 40 ans. J'ai quitté Paris cet hiver en me disant « Tout ce monde devient fou, il va se passer des choses. Je m'en vais, je retourne en Bretagne. »
Et vous habitez où dans le Morbihan ?
J'habite près de la forêt de Pimpon.
Et le moral, alors, en ce moment ?
Bah, je suis bien oubliée que ça aille. De toute façon, c'est beau. Donc, voilà, il fait froid, il y a du soleil, il y a de la pluie, il y a du vent. Je vais chercher des champignons qui se cassent quand j'arrive, mais bon, voilà.
Est-ce que vous avez des trucs pour garder le moral ?
Ben, je me dis que ne pas l'avoir ne change rien, bien au contraire, on s'enfonce dans la perte de moral. En revanche, accepter en se disant bah, que c'est dur, oui, effectivement, c'est dur, mais accepter, c'est plus facile de le vivre, de le dépasser, et ça apaise finalement. On compose, ça permet de composer. Si on reste focalisé sur le fait que c'est dur et que ça ne va pas, on n'arrive pas à remonter.
Et vous, vous trouvez que vous avez une bonne nature de ce point de vue-là depuis toujours? Est-ce que c'est volontariste que d'avoir le bon moral? Est-ce que c'est parce qu'on décide d'être heureux ou pas?
Non, on ne peut pas décider. Il y a des natures. Je crois que la chance que j'ai, c'est d'être née dans une famille où il y avait beaucoup d'humour et d'esprit. Et que je me souviens de ma grand-mère qui pleurait le décès de mon grand-père. On allait à l'enterrement. Et donc tout le monde après l'enterrement était mal. On allait au cimetière et je vois ma grand-mère qui était tout le monde essuyait des larmes dans la voiture et puis elle voit un type qui fait du stop. Elle met la main sur l'épaule du chauffeur en disant arrêtez-vous. On va le prendre en stop. Il va pas être déçu du voyage. Donc tout le monde a éclaté de rire évidemment. Donc,
c'est une manière effectivement joyeuse de passer des enterrements, mais c'est... Pourquoi pas de conjurer comme ça le sort?
Oui, je crois que ça se fait comme on peut, mais des petites notes comme ça font que c'est moins dur, que ça ne change rien, mais c'est moins dur.
Ben merci Marie-Christine, merci beaucoup.
Voilà, je voulais vous dire s'il y a une dame qui avait l'air assez déprimée, qui s'appelle Marie-Agnès, ou je crois que c'est son prénom, si vous voulez lui communiquer mon numéro de téléphone, je peux lui proposer de faire des parties de Scrabble par Internet, des choses comme ça.
Bah écoutez, on va vous le donner, on va donner, parce que c'était ouais. Marie-Agnès, hein, c'est ça, qui habite Paris, et Marie-Agnès va rencontrer Marie-Christine.
Bah écoutez, pourquoi pas.
Et Marie-Christine puis,
Elle est nouvelle, c'est bien.
Qui est-ce qui chantait ça tous les
Nougaro.
Jours Nougaro. Nougaro. Mais on doit vous dire ça tous les jours en plus. Tout à l'heure, j'avais Céline, j'ai failli dire. Ah ben Céline, il avait aussi chanté Céline. Oui, Nougaro. Marie-Christine, vous connaissez cette chanson, Greg Carannoni?
Oui, bien sûr.
Non.
Olivier Bois aussi, j'imagine.
Ah bah Olivier Bois, il vient d'arriver.
Mais je viens d'arriver, je ne sais même pas de quoi vous parlez, Greg.
Eh bah, ben, vous allez écouter Marie-Christine.
C'est l'histoire de vous parler, Olivier.
Merci beaucoup, Marie-Christine.
Merci à vous.
Merci à vous.
Dites-moi vos histoires de complotisme.
Oui.
Il y a une chose qui m'agace.
Oui.
Il y a une chose qui m'agace terriblement. On parle de complotisme. Je suis d'accord avec vous. Sauf que, est-ce que l'important n'est pas la vérité plutôt que le terme complotiste ou des choses comme ça? Qu'il y ait, que ce soit avéré ou non, c'est ça qui compte finalement, plus que d'avoir des gens qui sont complotistes.
Non mais je suis d'accord avec vous, mais les théories du complot, elles fleurissent, c'est ça, dans cette période qui nous surprend et parfois nous inquiète et pourquoi pas aussi nous amuse.
Oui, je suis bien d'accord, mais le problème est que...
On n'a plus le temps, Marie-Christine. Parce qu'Olivier Bois s'impatiente. Mais restez avec nous si vous voulez, entre 14h et 14h30. Marie-Christine, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Il est 14h01. Le journal avec Olivier Bois.
Emmanuel Macron devrait s'exprimer mardi soir lors d'une allocution, selon les informations d'RTL, pour parler de l'allègement attendu donc du confinement. Les indicateurs continuent d'évoluer dans le bon sens. Nous sommes sur la bonne voie pour rouvrir les petits commerces autour du 1er décembre. C'est ce que dit ce midi le Premier ministre. À propos d'évolution positive de l'épidémie, Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, tient lui aussi des propos plutôt optimistes aujourd'hui sur les suites de l'épidémie. Je vois le bout du tunnel, dit-il en évoquant les mises au point de vaccins, considérant d'ailleurs que la France n'avait pas le droit à l'erreur sur le déploiement de ce vaccin. Il estime que la fin de la seconde vague, en revanche, prendra plus de temps que prévu. Pour lui, un retour sous les 5000 contaminations par jour correspondant à un niveau de maîtrise ne sera pas atteint avant le début de l'année prochaine. Le tueur en série Michel Fourniret a été hospitalisé à Créteil après avoir fait un malaise dans sa cellule. L'ogre des Ardennes, déjà condamné à la perpétuité pour cet assassinat, est soupçonné dans d'autres affaires de disparition, notamment celle d'Estelle Mouzin. On apprend d'ailleurs que pour la première fois, fin octobre, pendant une reconstitution, il a donné des indications sur le lieu où il aurait enterré la jeune fille disparue en 2003 à Guermantes. Un mot de sport, 11e journée de Ligue 1 qui commence ce soir, Rennes-Bordeaux à 19h, Monaco-PSG à 21h et rendez-vous dès 20h dans RTL Foot avec Eric Silvestro. La météo, il fera beau cet après-midi partout en France, grand soleil sur l'Est, le Sud-Est et la Méditerranée. Les températures restent fraîches, 7 à 11 degrés sauf au tour donc de la Méditerranée où l'on atteindra cet après-midi les 14 à 16 degrés. Et la tendance est la même pour demain.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et Laurent Tessier va nous annoncer ce qui va se passer désormais.
Avez-vous le moral en ce moment ? C'est la question que nous vous posons depuis le début de l'émission.
Moi, les recommandations là, de tous les savants, de tous les médecins et tout ça, j'en ai ras le bol. Il suffit que je vois Salomon, que j'appelle le croque-mort, je change de chaîne.
Tous ces gens qui vont se retrouver au chômage, c'est terrible. Et hier soir, mon fils m'a téléphoné, il m'a dit « Bon, ça y est, maman, je viens de recevoir ma lettre de licenciement ».
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a parlé hier soir, lors de sa conférence de presse hebdomadaire, des conséquences psychologiques de la crise du Covid-19.
Pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre nous, le confinement de la première vague a constitué un choc, ravivé par le nouveau confinement. Chacun se sentira concerné si je dis qu'il y a eu de la peur, parfois de la sidération, tantôt de l'espoir, tantôt du désespoir, de l'incompréhension, de l'agacement et parfois même de la colère.
5,8 sur 10, c'est la note du moral des Français selon notre baromètre BVA et le constat d'Olivier Véran est sans appel.
La santé mentale des Français s'est ainsi significativement dégradée entre fin septembre et début novembre, avec une augmentation conséquente des syndromes dépressifs observés pour tous les profils sociodémographiques.
Une santé psychologique dégradée, notamment pour les personnes qui déclarent une situation financière difficile, mais aussi pour les 18-24 ans. Selon un sondage Odoxa, 75% des jeunes considèrent qu'ils paieront au prix fort les conséquences de la crise. Le gouvernement veut éviter, je cite, une troisième vague, celle de notre santé mentale. Mais allez, un peu de positif aujourd'hui.
Je vois la sortie du tunnel, c'est la bonne nouvelle du jour. Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, appelle les Français à tenir bon alors que s'achève la troisième semaine de reconfinement. C'est ce que confirme aussi l'Agence sanitaire Santé publique France. Le pic de la seconde vague a été franchi et on voit nettement la décrue.
Des chiffres encourageants que nous rappelait tout à l'heure dans RTL Midi, Virginie Garin.
Le nombre de cas baisse depuis deux semaines et même de 40% depuis 7 jours et ce, dans toutes les régions. Le R, la vitesse de reproduction du virus, est redescendue en dessous de 1. Il y a des signes positifs aussi à l'hôpital, les entrées baissent légèrement, les nouvelles réanimations aussi et il y a une stabilisation du nombre de décès.
Alors nous vous posons de nouveau la question, avez-vous le moral en ce moment ? Rejoignez-vous les propos d'Emmanuel Macron.
C'est dur d'avoir 20 ans en 2020.
Est-ce que vous vous dites comme Michel Sardou ?
Je hais cette époque. Je hais. Je hais ce siècle. On n'a plus aucune liberté. Eh merde, merde, ça va.
Allez-vous suivre le conseil de Pascal Praud pour être de bonne humeur ?
C'est une remède pour avoir bon moral. Il arrive, il produit sur moi un effet immédiat de rire, Cyprien Sini. Elle a de la chance, votre femme.
Oui, elle a beaucoup de chance. On va se...
Un peu de bonne humeur, ça nous fait du bien. Avec nous, Armelle Le Bigomaco, présidente de l'école des grands-parents européens et du COFRAD, le Conseil français des associations pour les droits de l'enfant.
C'est quand le bonheur. Bonjour Madame Le Bigomaco.
Bonjour.
Eh bien, vous allez pouvoir nous aider et vous allez écouter les auditeurs et vous allez leur donner, pourquoi pas, des conseils. Ainsi Marguerite. Et Marguerite, bonjour.
Bonjour Pascal.
Marguerite, vous êtes en dépression.
Oui, dépression, angoissée, enfin, voilà. C'est pas facile.
Mais par nature, c'est-à-dire qu'il y a un fond dépressif chez vous depuis toujours, ou est-ce que... Oui.
Oui, c'est ça, oui, je suis... pardon, excusez-moi. Je suis, dépressive depuis à peu près une quinzaine d'années. Diagnostiquée réellement depuis un peu moins longtemps que ça. Et assumée depuis très peu de temps, depuis 2-3 ans, oui. Voilà, quoi.
Et vous avez une explication à cela ?
Une explication, pas vraiment. Ma mère est un peu aussi... quelques problèmes aussi d'anxiété, donc bon... je me dis c'est peut-être dans ma nature, quoi. Et puis, je sais pas. Non, il n'y a pas vraiment d'explication, quoi. Mon médecin m'a expliqué une fois, on reproche pas à quelqu'un d'avoir de la fièvre parce qu'il est malade. Donc, la dépression, c'est aussi une maladie, quoi. Donc.
Et vous prenez peut-être des médicaments pour vous aider ?
Oui, exactement, oui. Alors, j'ai un traitement que je prends plus ou moins à haute dose. Ça dépend un peu des périodes, quoi. Mais voilà. Et puis... sinon, en temps
et vous
normal,
gérez, vous arrivez à gérer en fait.
Depuis quelques années, je gère plutôt bien, quoi, ça va.
Donc vous êtes chauffeur routier d'ailleurs, ce qui est un métier particulier pour une femme.
Exactement.
Et souvent, ça, c'est un métier qui est resté assez masculin. Alors, peut-être que Madame Le Bigot-Maco a un avis en vous entendant et peut-être va-t-elle vous poser des questions. Ce sera après la pub.
D'accord.
Alors, les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et donc Madame Le Bigot-Maco, qui est présidente de l'École des grands-parents européens et qui est au Conseil français des associations pour les droits de l'enfant, qui connaît bien ses grands-parents, ses enfants qui souffrent dans cette période de confinement et là où le moral est un peu en baisse. Peut-être avez-vous un mot à dire à Marguerite, Madame ?
Alors, je ne sais pas si ça va lui faire plaisir, mais Marguerite, je vais aller dans le sens du soleil d'aujourd'hui, vous dire que vous êtes plus seule dans cet état d'esprit. Vous êtes rejoint malheureusement par une foule de grands-parents qui, comme je l'ai dit très souvent sur les ondes, qui souffrent. On parle beaucoup de la maladie, de la santé physique, mais on ne parle que très peu, merci, on en parle depuis hier, de la santé morale et mentale des grands-parents et de la population en général et des enfants en particulier. Depuis cette pandémie, j'ai envie de dire qu'avec tout ce qu'on nous a annoncé aussi à propos de Noël, les grands-parents sont vraiment désespérés et on meurt presque plus, mais je ne parle pas pour vous Marguerite, mais on meurt presque plus de problématiques de solitude et de souffrance que des problématiques strictement physiques. Donc je crois que ce problème il est réel, il est terrifiant en ce moment, parce que c'est vrai qu'on voit pas la fin, même si on nous dit ça y est, ça va un petit peu mieux, tant mieux, on nous disait l'inverse la semaine dernière, donc espérons qu'on soit sur la bonne ligne, mais je dois vous dire que ces grands-parents sont vraiment perdus, et ils disent tous, on a lancé un manifeste, on a eu des milliers de réponses de grands-parents qui disent nous, nos petits-enfants, c'est notre joie de vivre, si on nous prive de ces rencontres, c'est terrible. Et du côté des petits-enfants, il y a aussi le sentiment que ce monde marche à l'envers, qu'aujourd'hui les adultes n'ont plus la maîtrise de ce qui se passe, donc la perte de confiance dans les adultes, la perte de confiance dans la société, c'est assez terrible et aujourd'hui, j'insiste là-dessus, tant pis Marguerite, je saute sur l'occasion, c'est la journée internationale des droits de l'enfant, le 20 novembre, j'organise les états généraux des droits de l'enfant aujourd'hui pour donner la parole aux jeunes, pour qu'ils puissent s'exprimer, et croyez-moi, ils ont des quantité de choses à dire aux politiques et à tous les élus pour leur dire écoutez-nous un petit peu, on parle jamais de nous, on en parle à propos de l'école mais pas à propos de la société, on a plein de choses à vous dire.
Et voilà Marguerite,
donc je sais pas si ça vous fait du bien mais en tout cas sachez que vous n'êtes pas la seule.
Non mais ce qui est intéressant dans ce que dit Madame Le Bigot-Maco, c'est que la santé ce n'est pas simplement ne pas avoir le Covid.
Exactement, oui.
Voilà, il y a autre chose et qu'on a parfois l'impression ces dernières semaines que la santé se résume à ne pas avoir le Covid. Et effectivement, la santé mentale, je suis content que M. Véran en ait parlé hier parce que elle fait partie, enfin, comme vous dites, elle fait partie d'un tout. Marguerite, un petit mot de conclusion ?
Un petit mot de conclusion, non, je voulais surtout témoigner, pour que les gens assument, parce que moi ça fait pas très longtemps que j'assume tout ça, mais c'est vrai que ça fait du bien d'assumer, de dire, moi, vous me croisez dans la rue, je n'ai pas une tête de dépressive où je pleure, où je suis pas bien, où j'ai souvent le sourire, hein. Les trois quarts du temps j'ai le sourire, après voilà, ce sont juste des crises qui passent, donc que les...
Oui, et puis aujourd'hui c'est plutôt bien soigné, vous avez raison, voilà, mais ce qui est intéressant je trouve...
Il ne faut pas s'en vouloir, comme l'intervenant de tout à l'heure vous a dit, quand vous avez dit « Allez, haut les cœurs, on y va, il y a des choses plus graves », c'est vrai que ce genre de phrases, je les ai entendues beaucoup, et c'est encore pire. Parce qu'on se dit vraiment qu'on est tellement nul qu'on n'arrive pas à aller mieux alors qu'il y a des choses plus graves. Donc c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec l'intervenant de tout à l'heure. Et on n'y peut rien, on fait vraiment ce qu'on peut, et puis mais c'est pas une fatalité, quoi. On peut vivre avec. Après, c'est vrai qu'avec le Covid, en ce moment, c'est compliqué, quoi. C'est très compliqué à gérer parce que j'expliquais à votre standardiste qu'en fait, les gens dépressifs ou anxieux ou un peu, enfin, tous les gens qui ont des maladies mentales d'origine ont besoin d'un équilibre dans leur vie. Si votre vie est assez équilibrée, vous arrivez à bien dormir et tout, ça atténue les symptômes. Et là, ces derniers mois, on n'a plus du tout d'équilibre. Donc, c'est vraiment beaucoup plus compliqué que d'habitude, quoi. À gérer, c'est pas évident. Mais il faut que les gens n'hésitent pas à aller voir leur médecin, en parler, même s'ils ont l'impression qu'ils sont pas bien pour rien. Non, quand on n'est pas bien, on n'est pas bien. Donc, on va voir son médecin, on en parle et puis on trouve une solution, quoi.
Bah merci vraiment Marguerite pour la franchise de vos paroles, pour la clarté également. Puis vous avez dit une chose qui est très juste, c'est que vous avez parlé de votre mère, je crois, qui avait un terrain un peu dépressif et qu'effectivement il y a peut-être parfois un terrain aussi génétique.
Oui, j'ai un oncle qui est schizophrène aussi, donc je suppose que on n'est pas gâté dans notre famille, mais bon, c'est comme ça.
Mais on fait avec et vous le dites avec beaucoup de courage et beaucoup de lucidité et beaucoup d'intelligence, donc c'est très intéressant comme ça de ne pas refuser les choses et de les dire comme vous les avez dites. Merci beaucoup Marguerite.
Merci
14h16,
merci
une pub.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Je rappelle que nous sommes avec Armelle Le Bigot Maco, qui est présidente de l'école des grands-parents européens et qui évidemment s'occupe aussi des enfants actuellement en difficulté par cette crise si particulière. Nous sommes avec Anaïque. Bonjour.
Bonjour.
Vous habitez dans le Gard, Anaïque.
Oui.
C'est une question qu'on pose depuis 13 heures. Est-ce que vous avez le moral?
Eh bien, oui. Je peux le dire, je suis peut-être un petit peu dans les rares. Mais oui, je suis handicapée depuis 17 ans. Et donc, j'ai eu suffisamment le temps, enfin du moins, on a toujours un peu de temps, si on veut bien le prendre, d'arriver à trouver une stabilité et puis de prendre du recul par rapport à la vie, à tout ce qui passe autour de soi, et pour vivre mieux l'instant présent. Et comme disait l'autre, Marguerite, pour essayer de trouver l'équilibre, justement. On parle yoga depuis 4 ans, je fais 2 séances par jour, malgré mon handicap. Bon, je suis contente de ce que j'arrive à faire. Hein. Au moment présent, ça peut varier vraiment d'une heure à une autre. Après, voilà, de jamais aussi s'apesantir sur ce qu'on ne peut pas faire. Pour moi, il faut mourir pour renaître, tous les jours.
Il faut mourir pour renaître.
Ben oui, mourir à l'intérieur. Oui, chaque jour, tous les jours, c'est une nouveauté, c'est un nouveau jour. Et apprendre à accepter chaque chose comme elle est, quoi. Sans vouloir la changer, faut pas faire trop de projets non plus, parce qu'on est très déçus. Et puis voilà, faut être heureux avec chaque instant qui arrive, quoi. Là, je suis en train de relire le traité de sagesse à 3 voix avec Mathieu Ricard, Alexandre Jolien, Christophe André. Et ça, c'est des livres de chevet. Je veux dire, on apprend à relire un petit peu tout ce qu'ils ont à nous apprendre, quoi. Vivre sans se dire pourquoi, sans se demander tout le temps pourquoi. Enfin, le bonheur, c'est une petite goutte dans chaque instant, quoi. Ça peut être un rayon de soleil. Enfin, moi, je vis enfermée. Bon, j'ai la chance d'avoir un mari, mais je lui demande pas non plus d'être mon infirmier. Je fais beaucoup de choses de mes mains. Je lis. Voilà. Il faut avoir l'esprit ailleurs. Et puis faire de la méditation, ça aussi, se poser 10 minutes le matin après une séance de yoga, ça vous change la vie, quoi. Le matin est beaucoup plus rayonnant, beaucoup plus lumineux. Après, je ne me coupe pas d'avis, j'écoute toutes les informations, je suis au courant, je sais que je suis en état de risque, donc je ne sors pas. Mes petits-enfants, c'est par vidéo. Voilà, on n'est pas coupé de la vie. Si on veut bien être heureux, on l'est. Enfin, voilà.
C'est en tout cas quelque chose qu'on peut entendre. Armelle Le Bigot Maco.
Oui. Moi, je viens d'entendre la mention des petits-enfants. D'abord, j'entends avec délice cette personne qui exprime, alors qu'elle aurait peut-être toutes les raisons de se plaindre, sa joie, son bonheur, sa joie. J'ai entendu qu'elle était grand-mère. Je me dis que elle porte certainement en elle cette joie que lui procurent aussi ses petits-enfants, au-delà de sa force de caractère qui n'a pas l'air évidente, mais la force de ses petits-enfants qui sont visiblement dans son cœur et dans sa vie. Donc c'est parfait, bien sûr qu'il faut absolument s'accrocher à toutes ces valeurs de joie, et nos petits-enfants sont les premiers à nous le dire, mais il faut quand même, bien peser la difficulté, justement pour les enfants qui n'ont pas les codes pour décoder toute cette situation inextricable. D'ailleurs, est-ce que les adultes les ont eux-mêmes? On peut se poser la question, mais pensons à ces enfants et disons-nous qu'il faut leur donner libre expression pour dire ce qu'ils ressentent. ressentent, ce qu'ils vivent mal, parce qu'ils le vivent mal. Je vous assure, nous on entend beaucoup d'appels aussi de familles qui disent que les petits-enfants sont angoissés, et ils le sont vraiment, et les enfants en général, et en particulier les jeunes, hein, c'est vrai que Macron dit on n'aimerait pas avoir 20 ans aujourd'hui, mais sincèrement, je préfère être grand-mère que jeune fille de 20 ans aujourd'hui, hein, parce que l'avenir qu'on leur réserve, on ne sait pas trop à quoi il va ressembler. Donc c'est vrai que le message que je viens d'entendre, à savoir soyons positifs, quel que soit notre contexte, bien sûr qu'il faut le porter haut et fort, et il faut effectivement être responsable aussi pour dire il y a une issue à cette crise, mais en écoutant tous les gens qui veulent s'exprimer. Et je le répète, dans cette pandémie, on n'a pas beaucoup entendu les grands-parents, je vais dire la génération d'après, on a beaucoup entendu parler des EHPAD, et Dieu sait que c'est un vrai souci, mais les grands-parents qui ne sont pas en EHPAD, hein, c'est quand même la génération d'avant, les EHPAD c'est les arrière-grands-parents, on n'a pas beaucoup entendu non plus les enfants, et les enfants sont effectivement peut-être ceux qui à terme souffriront le plus de cette pandémie. Il faut y penser, il faut leur donner la parole.
Alors, écoutons peut-être un dernier témoignage avec Philippe, et je remercie grandement Anaïk pour cette leçon de vie durant quelques minutes, et Philippe qui est directeur d'hôtel dans le Loiret. Votre hôtel est fermé ou il est ouvert, Philippe ?
Bonjour Monsieur Pro, bonjour aux auditeurs. Non, l'hôtel est fermé, il est à Paris. Mmh. J'habite le 45, mais l'hôtel est à Paris et nous sommes fermés effectivement depuis fin mars. On a réouvert, on a fait une tentative en septembre et en octobre, on a refermé. Et puis voilà.
C'est un hôtel qui était dans Paris, dans quel quartier ?
Dans le 6e.
Et parce qu'il y avait beaucoup de touristes dans votre quartier ?
On avait une clientèle à la fois touristique et d'affaires, mais voilà, les gens...
Et depuis le mois de mars, il est fermé. Même cet été, il n'a pas rouvert.
On a réouvert le 24 août, ouais. Jusqu'à fin octobre, mais...
Et il y avait du monde ?
Non.
Ouais, c'est difficile, il y a beaucoup d'hôtels...
C'est un hôtel qui marchait très bien. C'est-à-dire qu'on avait une clientèle très fidèle... Mais voilà, enfin, les gens télétravaillent, les touristes ne viennent pas, enfin voilà.
Et malgré ça, vous n'avez pas envie de vous plaindre ?
Bah non. Mais il faut regarder un peu ailleurs, il faut regarder ce qui se passe ailleurs, dans d'autres pays. J'entendais une auditrice tout à l'heure qui avait pas le moral, qui habitait un grand appartement. Ben, il y a des gens qui habitent des 15 mètres carrés à 4. Enfin, il y a toujours des gens qui... En fait, moi, je me rends compte depuis le début que ce ne sont pas les gens qui le vivent le plus mal qui se plaignent le plus. Et je trouve que l'auditrice précédente est intéressante parce qu'elle garde le moral alors qu'elle aurait effectivement toutes les raisons de pas avoir le moral. Et je trouve ça génial. Enfin, je veux dire, il faut essayer de voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Là, j'entendais les enfants. Je pense que je suis papa. J'ai 3 enfants. Et bon, qui sont grands maintenant, mais je pense que notre rôle de parent, c'est aussi de garder le moral, c'est aussi de réconforter nos enfants, de les écouter, mais de les réconforter.
Ah, ça, je suis bien d'accord avec vous. Là-dessus, les enfants, il faut les rassurer.
C'est pas le rôle des autres. Je veux dire, à un moment, je pense que la société, il faut qu'on arrête de penser que tout vient des autres. J'entends depuis des semaines là, des discours par rapport à Amazon, par rapport au supermarché, par rapport au commerce de proximité. Eh ben, n'attendons pas des lois, n'utiliserons pas Amazon, on n'achète pas sur Amazon, on attend que les commerces de proximité réouvrent, et puis voilà, et puis achetons français, et puis achetons à proximité, et réagissons, ne soyons pas des victimes permanentes. Et j'écoutais votre invité tout à l'heure répondre à une dame qui n'avait pas le moral. Excusez-moi madame, mais quand je vous écoute, je comprends qu'on n'ait pas le moral. Enfin, je veux dire, moi, des grands-parents, j'en ai plein, mon frère et grand-père, et voilà, et on... Bah, on est là pour réconforter et nos enfants et nos petits-enfants. On est moteur, on a de l'expérience et il faut être positif.
Eh ben, soyons positifs, ce sera le dernier mot de cette semaine. Merci beaucoup Philippe, merci également beaucoup à Armel, Le Bigot, Mako, notre ami Laurent Tessier dans une seconde pour le verdict. Et ensuite, ce sera Flavie Flamand.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.